Salut tout le monde, bienvenue à cette autre édition du podcast de Hockey sur demande, édition du 30 octobre 2023, la veille de l'Halloween. Comme je peux voir, Stéphane, le mignon n'a pas bougé depuis une semaine, toujours fidèle au poste.
Toujours fidèle au poste.
Comment ça va?
Ça va super bien, toi.
Yes, écoute Steph, encore une fois, plusieurs sujets à discuter pour le podcast de cette semaine, en fait. Évidemment, on va y aller avec nos segments coup de cœur et coup de pied. On va revenir sur la semaine du CH. On va revenir également sur le fait qu'il n'y a plus d'équipes maintenant qui sont invaincues. Et c'est assez bizarre la manière que ça s'est fait. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Grosse nouvelle aussi concernant le repêchage qui ne fera pas plaisir à plusieurs personnes, malheureusement. Ensuite, on va y aller avec quelques sujets en rafale. Et évidemment, on va terminer avec notre fameux segment sur réception. Et c'est moi cette fois-ci qui va poser des questions à Stéphane. Et je te dis tout de suite, Stéphane, mes questions ne sont pas à la hauteur des tiennes la semaine dernière, malheureusement. Tu as mis la barre assez haute avec tes questions.
C'est pas grave. Je vais avoir des bonnes choses à discuter quand même.
Yes, donc déjà, nos habitués qui sont là, Savanti qui est déjà dans le chat également. Michael qui est là aussi. On s'excuse là, pour avoir déplacé le podcast, malheureusement. Obligation familiale pour moi hier, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait ça hier, mais on n'a pas cancellé ça. On n'a pas fait comme l'Halloween il y a quelques années, on n'a pas cancellé ça, on a juste reporté ça.
C'est vrai, on a cancellé. Hein.
Et on est au poste ce soir. Donc, Steph, ton coup de cœur de la semaine?
Écoute, coup de cœur de la semaine, moi, ça va être... je vais aller avec le Canadien. J'ai écouté pas mal de hockey cette semaine. J'aurais pu y aller avec bien du monde. J'ai eu quand même une belle semaine. Là. Evan Bouchard qui me surprend encore avec les Oilers. Elias Pettersson, qu'on parle pas avec Vancouver, qui va super bien aussi. Mais je pense que mon coup de cœur, si on parle du Canadien, c'est Sean Monahan. Et pas qu'on est surpris de ce qui se passe au niveau de Sean Monahan. On sait que c'est un bon joueur. Mais je pense qu'on voit la différence puis que ce joueur-là peut apporter aux Canadiens présentement, soit au niveau des cercles des mises en jeu, des mises en jeu importantes, soit en prolongation qui a donné deux buts encore aux Canadiens cette semaine, ou soit en supériorité numérique aussi pour dans les parties. Donc, c'est un joueur qui a un bon impact. Et ma question qui va être pour les prochaines semaines et mois, c'est est-ce qu'on va aller l'échanger pour aller chercher un autre choix repêchage qui ne sert à rien? Où on va le garder peut-être pour le futur. Donc, moi, c'est là que je pense qu'il va falloir penser du côté du Canadien. C'est un gars de 6 pieds 2, 212 livres. Il a seulement 29 ans. Oui, les blessures sont difficiles du côté de Sean Monahan depuis très longtemps, mais si ce gars-là peut être en santé pour les 3 ou 4 prochaines années, est-ce qu'à la place, il ne pourrait pas aider le Canadien? Et je pense que c'est une question que tout le monde doit se poser présentement du côté du Canadien, peut-être en major en haut.
Moi, ça va toujours dépendre de qu'est-ce qu'il va demander comme contrat. Je veux dire, si, puis je pense que c'est Aaron Jazz qui en parlait à RDS. Je pense que c'est Yannick Lévesque qui avançait que si, exemple, il demande 3 ans à 3,8, cool. Let's go, on signe tout de suite.
Non, mais oui.
Si, comme Martin Lemay dit, s'il demande 5,250 000 pour 5 ans, c'est là que j'ai de la misère. Parce qu'on sait que quand les joueurs atteignent la trentaine, souvent, c'est le début de la fin. C'est là qu'ils commencent à ralentir. Et on a déjà Gallagher que le contrat est long puis qu'on veut pas qu'on trouve que c'est un contrat qui est lourd. Peut-être pas présentement, mais dans le futur, ça risque de faire mal, ce contrat-là. Il ne faudrait pas en ajouter un autre à la Sean Monahan aussi par-dessus ça. Donc, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'il demande. Évidemment, tu mentionnes, est-ce qu'on l'échange pour un choix au repêchage qui ne sert à rien? C'est pas vrai que ça va servir à rien parce que ça va servir de monnaie d'échange plus tard lorsqu'on va être prêt à être compétitif. Puis on sait qu'il y a des choix de première ronde qui se donnent comme des bonbons à l'Halloween sans vouloir faire de jeu de mots thématique. Et c'est sûr que si le Canadien en a plein dans sa banque, tu sais, oui, est-ce qu'il va repêcher avec tous ces choix, avec ces choix-là? Non, aucune chance. Là. Je veux dire, le Canadien est déjà garni au niveau de la banque d'espoir en termes de quantité. Malheureusement, il manque un peu la qualité au niveau élite. Mais tu sais, si on se présente, exemple, en 2025, il y avait 3 choix de première ronde et qu'on est sur le bord de faire les séries, on est dans la course pour faire les séries, c'est là que ça va être payant parce qu'on peut aller chercher des gros joueurs ou on va pouvoir bâtir une offre hostile de l'allure sur un joueur aussi. Ce que Marc Bergevin n'a pas fait dans le passé, qui a fait une offre hostile un peu cadeau du côté des Hurricanes. Ouais. Mais là, si on est prêt à surpayer avec les joueurs repêchage avec une offre hostile, ben là, c'est là qu'on va aller chercher des joueurs assez intéressants. Mais la question mérite d'être posée parce que c'est vrai que Sean Monahan, non seulement il rend de fiers services aux Canadiens actuellement, mais il a l'air à s'y plaire aussi à Montréal. Puis ça, c'est dur de garder des joueurs à Montréal. Mm-hmm. Et si lui veut rester et qu'il demande un prix raisonnable, effectivement, là, on va devoir y penser là, à le garder. Si on parle de bons vétérans, ben c'en est un, ça.
Effectivement, puis la question se pose. On va en parler plus tard. C'est un de mes sujets, je pense, dans les autres sujets que je vais avoir, mais... Les Canadiens, est-ce qu'on va pouvoir enfin s'asseoir sur un choix première ronde qui va être à long terme? Puis je ne blâche pas Stachowski, vous allez voir, là, ma question elle se pose tantôt. Mais je pense que, de mon côté à moi, je pense qu'on devrait s'asseoir au table de négociation pour négocier sur au moins un contrat de 3 ans avec Sean Monahan. Si on peut tourner autour de 3,5, 3,5, 4, moi je serais prêt à signer.
Sinon, avant d'aller dans les coups de cœur, quelques commentaires dans le chat. Michael qui me mentionne, c'est hors contexte, mais est-ce que j'ai hâte que Franchise Hockey Manager 10 sorte? Oui, effectivement, j'ai très hâte que ça sorte. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance, malheureusement, j'ai pas mis autant de temps que j'aurais voulu mettre là-dessus, mais ceux qui font Franchise Hockey Manager 10 m'ont approché pour tester le jeu en bêta, wow, comme on appelle, pour que je puisse regarder les bugs et tout ça. J'ai joué un petit peu, mais malheureusement, je n'ai pas peut-être joué comme j'aurais voulu jouer. Mais non, ça va être encore une bonne édition cette fois-ci. Très hâte là, que ça sorte. Là, c'est début novembre que le jeu va sortir. Savanti, lui, son coup de cœur reste chez ses Devils avec Jack Hughes et Tyler Toffoli. Effectivement, c'est d'excellents choix aussi.
Quel début de saison.
Salutations à Peter qui est dans le chat, qui mentionne « Je viens d'arriver, je vous écoute. » Excellent. Donc, moi, mon coup de cœur, je vais aller dans la LHJMQ. C'est rare qu'on parle de junior. On devrait peut-être le faire plus, mais là, je voulais. J'avais pas vraiment de coup de cœur précis. Fait que je regardais un petit peu ce qui se passait dans la queue. Et j'ai pas le choix de lever mon chapeau au Drakkar de Bécomo, que ça va très bien actuellement. Actuellement, c'est la meilleure équipe de la LHJMQ. 5 ouais. victoires consécutives. C'est la meilleure attaque de la Ligue présentement. C'est le meilleur power play aussi de la Ligue. Et la raison pour laquelle que j'ai mis ça comme coup de cœur, c'est que. En début de saison, dans les pronostics, dans les jeux de prédiction et tout ça, on voyait beaucoup les Mooseheads d'Halifax, on voyait beaucoup les Huskies de Rouyn-Noranda, les Tiques de Victoriaville, les Vultures de Drummondville. Mais là, présentement, c'est vraiment le Drakkar qui lance un message, un fort message en fait là, au reste de la Ligue, qu'il ne faudrait pas les oublier eux non plus, qui ont une très bonne équipe sous la main. Donc, un petit coup de cœur ici de la LHJMQ.
Surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui sortent pas un petit peu de nulle part, mais des joueurs qui vont prendre l'expérience. On parlait de Justin Poirier cette semaine, on en parlait, Max. On essaie des choses de notre côté avec de lancer des lignes à l'eau, mais je pense que c'est des joueurs comme ça qui font que cette équipe-là va être meilleure. Et effectivement, c'est bon que tu en parles parce que c'est une équipe qui était un petit peu dans l'ombre des trois grosses équipes qu'on a dans la Junior Major du Québec. Mais je pense que les gars vont se reprendre du côté du Drakkar.
Je vais y aller avec mon coup de pied, si ça te dérange pas, parce que Savanti qui l'a mentionné dans le chat, on n'a pas le choix de parler là, de ce qui s'est passé récemment dans le monde du hockey avec Adam Johnson, qui est malheureusement décédé. C'est mon coup de pied, pas parce que je veux pointer quelqu'un du doigt. Je sais que j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça a dérapé là, en mentionnant que le gars devrait être accusé de la tentative de meurtre, pis ci, pis ça. J'embarquerai pas là-dedans parce que, probablement, ça me tente pas vraiment là, de commencer à spéculer là-dessus puis à pointer quelqu'un du doigt. C'est juste le geste et la conséquence en soi que c'est mon coup de pied. Là. On veut jamais voir quelqu'un mourir sur une glace, puis malheureusement, ben, c'est arrivé avec Adam Johnson. Pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé, il a reçu un coup de patin directement à la gorge.
Mauvais shot du joueur. Hein, puis c'est Pat Grave, en passant à ceux qui ne connaissent pas, c'est qui l'autre. Matt Pengrave a joué pour la Ligue américaine du Club École de Montréal avec la Rocket. Et j'ai aimé Anthony Marcotte, moi, qui a parlé aujourd'hui en disant que j'ai une grosse pensée pour Matt Pengrave. Ça doit être quand même difficile de réagir à ce genre de tragédie qui se passe là. Puis moi, mon coup de pied, là, il vient près de relation avec toi. Puis je l'avais déjà depuis un bout de cette semaine, en fait, depuis l'événement. C'est les menaces de mort qui ont été faites sur son compte Twitter. Il était obligé de bloquer ses réseaux sociaux, Matt Pengrave, parce que le monde, on l'a accusé, on a des tentatives de mort, des tentatives de choses comme ça. Puis je pense que ça n'a pas son lieu d'être. On sait que les réseaux sociaux sont difficiles. On sait que c'est pas toujours la bonne chose qu'on entend sur ce côté-là. Mais je pense que le garçon, présentement, vu des choses qui sont déjà assez difficiles, j'embarque pas là-dedans non plus. Je pense pas que c'est intentionnel. Une chute vraiment bizarre. Là. Moi, je l'ai écouté à plusieurs reprises. Pas parce que je suis psychédélique et j'aime voir le sang jeter partout. Là. Mais seulement parce que c'est une chute qui était un peu bizarre. Il semblait vouloir plaquer l'autre joueur, le patin dévié vers la gorge de l'autre. C'est vraiment weird. Puis on en parlait au boulot aujourd'hui. Là, bon, on se disait, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était le gardien de but des Islanders, je pense. Je me souviens pas, dans les années 70-80.
Ouais, mais t'avais dit qu'il mentionne dans le chat, justement. C'était pas Grenfjord, me semble, avec les Oilers?
Non, c'est pas Grenfjord. C'est. Je sais pas son nom. Là. Si les internautes peuvent me le dire, ils vont le voir. Là. Le gardien de but, je me souviens, la scène qui était passée. Je me souviens encore de la scène, je l'avais vue plusieurs fois. Là. Le soigneur de l'équipe, de cette équipe-là, avait sauté sa glace en même temps que le coup s'était fait. Donc, avait réussi à sauver la vie du gardien de but parce qu'il avait mis la serviette dans le cou et il l'avait emmené de même. Là, on a vu de cet angle-là que le jeune a décidé de sortir de lui-même la patinoire, ce qui était le meilleur move à faire, je pense, au niveau de Adam. Mais écoute, c'est comme ses blessures. C'est vraiment dommage pour vrai parce qu'on veut vraiment pas voir ça. Puis, je pense que c'est pas un concours de circonstances, mais je pense qu'un nouveau règlement va s'adapter là-dessus. Je pense qu'on va adapter les choses. Ça a déjà commencé dans la Ligue américaine, en Ligue, la East Coast League, il y a des joueurs qui ont commencé à poser des genres de... C'est pas un cache-cou traditionnel que nos enfants ou nous, on a porté quand on était jeunes, mais c'est comme un surplus de Kevlar qui va avec le sous-vêtement de hockey. Donc, je pense que de plus en plus, là, le fameux collet roulé de notre ami Plekanec qui a pris sa retraite cette semaine, justement, va servir dans le futur.
Ouais, le gardien des Islanders, c'était Clint Mullerchuk.
Mullerchuk, c'est ça.
Il faut oublier aussi que ça a été arrivé à Richard Zetnik aussi, ouais. Dans les années 2000, début 2010, là, que c'était également arrivé. Puis là, dans la ligue, justement, British, là, c'était cette ligue-là que c'était arrivé. Maintenant, va obliger le port, justement, d'une protection au niveau du cou à partir de, je pense, c'est cette semaine.
31 décembre 2023.
Ouais, c'est loin que ça. En tout cas, ils vont poser des gestes. Puis on a vu aussi, comme de mentionné, dans la Ligue américaine, il y a quelques joueurs des Bruins de Providence là, qui avaient aussi une protection à ce niveau-là. Donc, tu sais, c'est plate que ça a pris un événement comme ça pour commencer à réveiller le monde qu'il faudrait peut-être protéger plus la région du coup. Tu sais, je sais que dans le junior, je sais plus si c'était encore le cas présentement, mais je sais que dans le passé, c'était obligatoire d'avoir un protège-cou aussi. Là. Mais bon.
C'est obligatoire pour les jeunes, peu importe la ligue. L'international, c'est différent. C'est comme la visière en même temps. Là. C'est un droit acquis à ce temps. Maintenant, chaque joueur a obligé d'avoir une visière. Mais je pense que certains joueurs vont y penser. Puis, tu sais, honnêtement, je les comprends après avoir joué au hockey. Puis, mon garçon joue au hockey. C'est fatigant, celui qui est lousse dans le coup. Quand on tombait junior ou on tombait le pays, ça ne changeait pas. Puis, on pouvait l'enlever. Mais je pense que là, y a certains joueurs, ou même l'international, pourraient peut-être voir ça.
Mais tu sais, ce qu'il y a maintenant, là, comme tu dis, l'espèce de tissu qui dépense plus, ça ne doit pas être si nuisible que ça. Parce que moi, j'en ai déjà porté un protège-cou. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être poigné là-dedans.
Exact.
Mais c'est un surplus de tissu, tu sais, ça ne doit pas être si encombrant que ça. Puis ça ne doit pas empêcher les mouvements tant que ça non plus. Là.
Effectivement.
Maintenant, allons-y avec le retour sur la semaine du Canadien. Écoute, Steph, on s'est planté royalement. J'avais dit 2 points, je pense, puis toi, 3 ou l'inverse. Là, je sais qu'on était, les deux n'étaient pas très optimistes suite à la semaine du Canadien. Finalement, c'est 6 points sur une possibilité de 8. Donc, toute une semaine là, pour le Canadien qui, si les séries commençaient aujourd'hui, ce seraient des séries. Mais je sais que ça a tant changé. Écoute, je ne vais pas me faire traiter de fafan site, là. Mais, mais sinon.
Ils ne sont peut-être pas en train d'écouter.
ça a commencé contre les Sabres de Buffalo, une petite victoire de 3 à 1. Encore une fois, ça n'a pas été un match que j'ai trouvé que les Sabres semblaient avoir. Évidemment, je ne parlais pas de sentiment d'urgence parce qu'évidemment, on est en début de saison, mais je ne trouve pas que c'était un gros match du côté des Sabres de Buffalo.
Non.
Ça n'a pas été un mauvais match, mais je m'attendais à ce qu'ils sortent plus fort que ça. Puis au final, ben, c'est les vétérans du Canadien qui ont bien joué. Tanner Pearson, qui était un throw-in dans la transaction de Casey DeSmith, rend de fiers services, tout comme DeSmith aussi qui rend de fiers services au Canucks, qui a des bonnes statistiques aussi là-bas. Mm-hmm. Un but, une passe dans ce match-là. Gallagher qui a trouvé le fond du filet, ça devait lui faire du bien. Justin Barron qui a saisi son occasion là, dans l'alignement, qui a réussi à marquer un but aussi. Donc, une belle victoire.
Cette semaine, lui, je pense.
Ouais, ça a été une grosse semaine pour Justin Barron.
C'est parfait.
Malheureusement pour le Canadien et heureusement pour Samanti, ben ça s'est gâché le lendemain contre les Devils de New Jersey. Mais c'était quand même pas si pire. Je m'attendais à pire que ça. Le Canadien était quand même dans le coup après 40 minutes de jeu. C'était 2-1 pour les Devils. Mais là, encore une fois, le désavantage numérique du Canadien qui a fait couler l'équipe. Là, 2 buts en début de 3e période pour mettre ça 4-1. Et le mal était déjà fait là, du côté des Devils. Mais quel club pour vrai, les Devils de New Jersey. Ça va être le fun à suivre ça tout au long de la saison avec des Toffoli, des Jack Hughes. Nico Ishier, écoute, il y a du stock là, dans cette équipe-là.
Oui, puis dans cette confrontation-là, on peut dire qu'on a lancé Primo dans la gueule du Lion, puis il a pas mal fait quand même. Donc, il faut quand même donner un crédit à Primo là-dessus, qui a arrêté 24 des 26 lancés contre lui.
Bon, on l'a jeté carrément. Et ça, pour vrai, là, excuse-moi de t'interrompre, là, mais ça, je comprends que on veut voir ce que le kid a dans le ventre, mais vraiment, tu l'envoies contre les Devils à Montréal en plus. T'sais, il s'en est bien sorti, par contre, il a réussi un arrêt spectaculaire aussi, un des arrêts de l'année, là, probablement. Mais il me semble que j'aurais attendu peut-être contre Columbus, une équipe un petit peu moins offensive pour leur mettre un petit peu dans le bain. Mais en tout cas, il y en a vu du caoutchouc, ça, il n'y a aucun doute, mais je ne sais pas si c'était la meilleure façon de le.
Ça pourrait être un coup de pied facile, la situation de gardien de but à Montréal. Puis moi, je trouve ça plate pour le jeune parce que là, on est en train de brûler des bonnes années de sa carrière, puis même si les gens sont pas prêts à le voir dans le numéro 1, poste de numéro 2 à Montréal ou peu importe, le jeune n'a aucune chance de se développer. Il faut pas oublier que le gardien de but, ça peut être late un petit peu, donc regardez mon tambour, donc je trouve ça vraiment plate de voir que le Canadien, évidemment là, puis ça on en parle parce qu'on en parle là, mais évidemment on a peur de le perdre au niveau du balotage parce que on l'a renvoyé, ça fait longtemps j'espère, en tout cas à Laval.
Non mais tu sais, c'est un peu bizarre la situation de Kaelin Primeau avec le Canadien. C'est comme on tient assez à lui pour essayer de tout faire, de ne pas le perdre par les waivers, mais on ne tient pas assez à lui pour lui donner plus de départ que ça. C'est, il est comme entre deux chaises un peu, Primo. C'est un peu dommage parce que, comme tu as dit, c'est, oui, je peux croire qu'un gardien, c'est plus long à se développer. Donc, c'est peut-être tout de suite ses meilleures années, mais il ne progresse pas pendant ce temps-là. Là. Fait que, il va arriver à ce qui est supposé d'être son prime, puis il ne sera juste pas prêt. Là. Fait que, comme tu dis, on est en train de brûler ce gardien-là, malheureusement, puis c'est lui qui est cop.
Effectivement, c'est vraiment pas. Yep, c'est pas terrible.
Prochain match maintenant, c'était contre les Blue Jackets de Columbus, toujours au niveau du centre de Bell. Et Canadien qui a remporté ce match-là par la marque de 4 à 3. On perdait 3-1 à un certain moment. On a réussi à remonter ça en troisième période pour finalement marquer en prolongation un but de Cole Caulfield. Très bon match pour Suzuki et Caulfield. 3 points chacun, ça va leur faire énormément de bien. Mm-hmm. Et là, je sais que... On va en parler un petit peu, Steph. Tu étais aux premières loges pour voir moi et Sam s'ostiner sur les réseaux sociaux. Ah, ouais.
Ben,
ouais. La fameuse pénalité ratée sur Adam Fantilli. Ouais. Bon, si évidemment le Canadien était puni là-dessus, ben un petit peu plus tard, le Canadien qui a marqué pas longtemps après. Donc, c'est toute cette séquence-là qui fait en sorte que ça a eu un impact sur le match, mais c'est pas là que les Jackets ont perdu le match, selon moi. Là, je pense que du côté des Blue Jackets, malgré ce but-là, qui, oui, a fait, je dirais pas a fait une différence, mais a pas aidé, on va se le dire. Là, je veux dire, au lieu de mener 3-1, ben, là, finalement, tu mènes juste 3-2, mais le point, c'est que tu mènes encore. Donc, t'es pas censé de te laisser aller comme ça, puis finalement, perdre le match. Là. Fait que, moi, je pense... Puis, tu sais, en plus, du côté des Jackets, on a tellement eu des opportunités. Là, en troisième période, en fin de période, on a eu une échappée, là, je me souviens plus c'est quel joueur qui était en échappée, il ne m'a pas réussi à marquer. Et en plus, on a eu une prolongation, un avantage numérique plutôt en prolongation. On n'a pas réussi à marquer là-dessus non plus. Donc les Jackets, oui, ce but-là a fait mal, mais se sont battus un peu aussi eux-mêmes par la bande.
Effectivement, puis écoute, c'est des discussions qui sont animées sur X ou sur Twitter, là, l'ancien Twitter, donc ou sur Facebook, l'un des deux. Là. C'est sûr que... Écoute, des situations de match arrivent et on manque à toutes les fois les arbitres. Je dis plus souvent qu'autrement, c'est contre l'équipe qu'on regarde, évidemment, parce qu'on est fan. Mais évidemment, c'est sûr que c'est une défaite crève-cœur, je pense, du côté des Blue Jackets. Mais on n'a pas dominé rien du côté des Jackets. On n'a pas été l'équipe qui était la plus dominante non plus. On a bien dominé la première période. Mais après ça, on s'est laissé aller un petit peu, je pense, notre avance. Et merci, Kins, n'a pas été à la fin du travail, mais... Écoute,
il faut dire que Montembeau a gaulé une bonne troisième aussi. Là, on était pas beaucoup aidé, mais Montembeau a été très bon aussi dans ce match-là.
Ouais, c'est bien repris, fait que ça fait la grosse différence. Mais comme je dis, c'est sûr que c'est des concours de circonstances. On ne sait jamais ce qui va se passer dans ce temps-là.
Et pour conclure, c'était un match contre les Jets de Winnipeg en ce samedi. Et un peu, je dirais pas un copier-coller, mais je parle plus au niveau du scénario, comment ça s'est produit. Le Canadien qui tirait de l'arrière 3-1 à un certain moment. On a réussi à créer l'égalité et cette fois-ci, ben, c'est les tirs de barrage qui ont été nécessaires pour faire un gagnant et c'est Suzuki qui a été le seul marqueur. Plusieurs choses à noter dans ce match-là. Quel match de Caden Goulet, pour vrai. Là, ça a été un fort match. 2 passes, mais aussi des tirs bloqués, aussi à profusion. Il y a eu des tirs également au filet. C'était son retour au jeu pour Caden Goulet et il n'a pas raté son retour, ça c'est sûr. Un autre que c'était son retour dans l'alignement, Joel Armia, c'était son premier match avec les Canadiens cette saison. Il a marqué un but aussi. Donc, a réussi à avoir un impact dans cette rencontre-là. Mais pour vrai, là, du côté de Gourlis, s'il pouvait jouer comme ça à chaque match, là, ça pourrait devenir un défenseur numéro 1 au sein du Canadien. Là.
Effectivement. Puis, tu sais, ça a été plus une semaine de gardien de but. Je pense que Montembeau a bien joué contre le Blue Jackets. Mais que dire de Jake Allen contre les Jets et même contre Buffalo. Donc, c'est le fun de voir. C'est rafraîchissant. Puis, je pense que. Le problème qu'on a avec Goulet, c'est que j'espère qu'il ne se blessera pas trop souvent. Il semble être assez fragile quand même au niveau de la partie du dos et des jambes. Excuse-moi, c'est sûr qu'on a eu une intervention au genou l'année passée. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ce que j'aime, c'est vraiment le calme. On l'a nommé les maisons anglais cette semaine. On l'a nommé comme étant le vétéran jeune. Donc, c'est un gars qui est bourré de confiance en lui, voit bien la rondelle, voit bien le jeu qui se dessine devant lui. Et honnêtement, je fais un meilleur coup de pas parce que voilà 3 ans, moi, je pensais que Jordan Harris avait un plus haut cap ou un plus haut plafond que lui. Et visiblement, t'arrêtes de me faire mentir présentement. Kevin Goulet est vraiment rendu dans une case à part parce que on joue 24 minutes par rencontre. On a des points sur le tableau, on a des mises en échec, on lance au filet, on découpe bien défensive aussi au niveau de l'attaque, puis on joue bien défensivement. Donc, Je pense que c'est une très bonne chose pour le Canadien au futur. Et tu parles de jouer à l'armée, moi je pense que ça a juste fait du bien un petit peu une claque sur la gueule pour dire « Hey, le grand, faut que tu travailles pour jouer, faut que tu travailles pour être avec nous autres en haut. » Et on a senti un Yoel Armia qui était un petit peu plus engagé dans cette partie-là. Je te dirais pas que c'est l'enfer, là. C'était pas autant que les autres, peut-être, là. On était encore plus dedans que les autres matchs qu'il avait joué, surtout depuis la fin de la saison passée.
Et là, cette semaine, le Canadien qui va avoir 3 matchs à se mettre sous la dent. Et ça commence fort ce soir contre la meilleure équipe de la Ligue, les Golden Knights de
America.
Vegas. À Vegas en plus. Ensuite, jeudi, on se dirige vers le Mullet Arena contre les Coyotes de l'Arizona. Et on termine ça samedi chez les Blues de Saint-Louis. Encore une fois, je vais te poser la question, la traditionnelle question. Combien de points sur 6 tu penses que le Canadien va récolter cette semaine?
Écoute, difficile, hein? On s'est fait avoir la semaine passée. Moi, je pense qu'on est capable de battre les Coyotes et on va ramasser peut-être un point contre les Blues. Mais je pense que ce soir, ça va être... Moi, je vais à 3 en 6. Je pense que, surtout à Vegas, avec le voyagement, je sais que c'est des petites princesses, puis ils voyagent dans des jets privés, là, selon vous autres, là, mais je pense que jouer à Vegas, c'est toujours très difficile. Et c'est une équipe qui, présentement, n'a pas perdu en saison régulière en temps régulier. On a perdu seulement contre les Blackhawks en overtime. Mais je pense que c'est une équipe. Puis tu sais, on parle des Coyotes, ça va être facile, ça sera pas facile. Je pense que la troupe de Tourigny cette année fait bien. On manque un petit peu de depth, là. Je pense qu'on va être à court pour faire plus de points que d'autres choses au niveau des Coyotes. Mais c'est une équipe qu'on peut prendre. Puis les Blues, j'ai de la misère à les dissimuler cette année. C'est pas une équipe qui présentement fait partie des favoris, moi je pense, dans l'Ouest, mais font pas mal. 3 victoires, 3 défaites, une prolongation. Donc, on joue pour 500, mais je pense qu'on manque beaucoup d'attaques du côté des Blues. Et là, on a parlé au début de la saison dans nos prédictions. Je savais même un petit peu plus haut que certains parce que je trouvais qu'on avait un bon apport puis qu'on est bien balancé du côté des Blues. Mais là, visiblement, en tout cas, en début de saison, après 7 rencontres, parce qu'on a juste joué 7 rencontres, évidemment, c'est un petit peu plus difficile au niveau de l'attaque. Là, on est moins 6 avec seulement 14 buts, là. Donc, j'ai hâte de voir ça.
Écoute, ben moi, j'ai le même résultat que toi. Là. Au final, là, je pense que le Canadien va récolter peut-être 3 points là, sur 6. Puis évidemment, ça va jouer avec les matchs Saint-Louis et Arizona. Moi non plus, je ne vois pas le Canadien là, offrir une opposition incroyable là, aux Golden Knights de Vegas. On va aller quelques commentaires dans le chat, Steph, avant d'aller au prochain sujet. Peter qui a mentionné que Caulfield a passé proche, a encore joué les héros en prolongation contre les Jets. Il a manqué toute une chance. Caulfield connaît une bonne séquence présentement.
Ouais.
Puis il mentionne également que dans le cas de Byron, là, il est en train de faire ravaler ses paroles. Il n'est pas sûr qu'il ne sera plus là dans 2 ans. On verra bien. C'est sûr que du côté de Byron, c'est un droitier. Donc, déjà en partant, là, il part avec une longueur d'avance. Oui, il a marqué des buts, mais c'est défensivement qu'il faut qu'il s'améliore. Là, encore. C'est pas l'attaque qui est son problème. Il a une belle mobilité, il a un bon flair offensif, mais dans sa zone, des fois, c'est laborieux. Et s'il n'améliore pas ça, ben, il y a d'autres défenseurs qui vont passer en avant de lui.
Là que je te dirais, puis c'est bon que tu en parles, c'est là que Kovacevic fait la différence. C'est un gars qui est très bon défensivement. Et plus 3 cette année, c'est rare. Les Canadiens qui sont dans le plus présentement au niveau des défenseurs. Il y a Kenan Goulet à plus 6 seulement. Mais je trouve que c'est la différence qu'on a avec Kovacevic, c'est ça. C'est qu'on joue mieux, peut-être un petit peu mieux en zone défensive. Mais si on peut avoir un apport offensif avec Justin Darren, ça va lui donner un petit peu plus d'aile parce qu'on l'a pas ailleurs non plus. David Savard, on sait que c'est pas un joueur offensif. Arbor Jacquet fait bien, mais est-ce qu'on pense vraiment que ça va être un joueur défenseur offensif? Je pense pas. Et moi, celui qui me dérange le plus, c'est Jordan Harris. Et moins 3 cette année. Seulement une passe en 8 rencontres. Se fait déborder, se fait plaquer. Il n'a pas l'air d'être dans son assiette. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que moi, j'avais beaucoup d'espoir en ce petit défenseur-là. Mais on semble, d'après moi, ça va être plus lui qui va faire le lien de transaction.
Non, effectivement, là, Harris, qui est peut-être celui qui risque à moins bien se démarquer. Puis, tu sais, il y a des défenseurs qui n'ont pas besoin de se démarquer. T'sais, on parle, par exemple, un Josh Georges, que c'était pas le défenseur le plus flashy, mais on savait ce qu'il apportait, puis il était efficace. Mais du côté d'Harris, malheureusement, il n'apporte pas cet élément-là qui fait de lui que c'est un incontournable à la ligne bleue du Canadien. Tu sais, je veux dire, à quel point que si tu rentres un Mathias Norlinder ou un Logan Mailloux, si ça ferait la même chose que qu'est-ce qu'on a avec Harris présent. Mais tu sais, je suis pas en train de dire que Mailloux est prêt pour la LNH et tout ça, mais je me demande juste, tu sais, à quel point qu'Harris est vraiment devant tout ce beau monde-là, puis à quel point qu'il y a une longueur d'avance sur ce beau monde-là. Je pense qu'il va se faire quand même rattraper là, assez vite là, s'il ne réussit pas à trouver une façon d'être indispensable à l'équipe.
Ouais, effectivement. Excuse-moi, j'ai des du monde qui m'écrivent sur Twitter qui me disent que Greg Coroning s'est fait crisser dehors de la game contre les Ducks contre les Pens parce que à cause d'un mauvais call. C'est quand la dernière fois t'as vu un entraîneur se mettre dehors de la game, toi?
Dans la NHL, c'est assez rare.
Ça fait longtemps, donc en tout cas, je trouve ça bien là. Excusez.
Samantha, il y a une question également dans le chat qui mentionne. J'aurais une question. Il y a pas mal de rumeurs comme quoi les Devils échangeraient Miller Smith et Schmid pour un deuxième goaler avec plus d'expérience et un sixième défenseur. Qu'en pensez-vous? C'est sûr que du côté des Devils.
Remettons le texte.
Ben en fait, il se demande si les Devils, là, qu'est-ce qu'on pense du fait que les Devils pourraient échanger Miller Smith et Schmid pour un deuxième gardien de but avec plus d'expérience et un sixième défenseur. C'est sûr que les Devils ont une jeune équipe. Fait qu'on dira jamais non à l'expérience de plus.
Je pense pas qu'on a besoin du côté des Devils pour vrai. Là. Je pense que c'est l'expérience. Je pense que si on fait ce genre d'échange-là, c'est en dernier au match proche de l'échange, proche de la date de limite, juste pour renforcer la défensive, dépendamment de ce qu'on est rendu au niveau du classement. Mais je toucherais vraiment pas à ce qui se passe au niveau des Devils présentement. Oui, les rumeurs sont bonnes, je sais, j'ai entendu parler moi avec. Mais je pense pas qu'on est rendu là du côté des Devils. Puis moi, je trouverais ça plate qu'on fasse ce move-là tout de suite.
Ben écoute, c'est sûr que ce ne sera pas des moves qui vont se faire tout de suite. Là. Je veux dire, on est en début de saison. Les Devils vont bien actuellement. Donc, il n'y a aucune raison là, de bouger. Mais c'est sûr qu'à la date limite des transactions, on veut toujours aller chercher ce sixième défenseur-là qui a de l'expérience, qui bloque des tirs, qui joue en piqué, qui est un véritable guerrier sur la glace. Donc, c'est sûr que du côté des Devils, on va bouger à la date limite des transactions si on est en bonne posture là, du côté du New Jersey. Il y a Matt Parra qui est là, qui mentionne « Si le CH ne voit pas Harris à long terme, pour quand l'équipe tournera le coin, aussi bien faire jouer Harris en haut et user de patience pour Mayo afin qu'il se développe son jeu en Ligue américaine. » Sacrifier Harris pour le développement de Mayo en espérant qu'Harris pas pour qu'il ait une petite valeur marchande. C'est sûr que présentement, du côté de Laval, on ne touche à rien actuellement. On laisse les joueurs là se développer. Il y en a plein là, qui sont là. Si tu fais monter Mayo pour qu'il joue sa troisième paire et qu'il ait plus de temps de glace, c'est sûr que ça ne vaut pas la peine tant que ça. Mon point est plus que je pense pas que Harris amène tant de choses que ça actuellement qui font en sorte que c'est un intouchable au sein de l'équipe. Exemple, demain matin, tu échangerais Harris pour X raisons puis tu montrais Mayo, puis je pense pas qu'il y aurait une grosse différence. C'est plus ça mon point, mais je suis d'accord qu'effectivement, Mayo, même Norlander, à la limite, là, tu le laisses en Ligue américaine là, présentement. Et on verra bien qu'est-ce que ça va donner là, pour la suite des choses, mais c'est juste que Harris doit commencer à stepper up un peu là, parce que s'il y a une chaise qui est en train de glisser, puis que s'il y a un joueur qui perd son poste en fait actuellement du côté du Canadien, c'est Jordan Harris.
Oui, effectivement. Puis moi je pense qu'il faut arrêter de monter les jeunes joueurs en haut qui sont pas prêts. Là. Puis ça va être mon sujet dans pas long. Là. J'ai hâte qu'on en parle là, parce que je suis allé de voir tout le monde qui veut monter tout le monde pour jouer dans le show en haut. Là. Laissez donc les jeunes en bas pour au moins une 40-50 games pour qu'ils se développent. La Ligue américaine, c'est une ligue qui est difficile à jouer. C'est une ligue avec des hommes. C'est une ligue qui est des fois même plusieurs nationales pour certains points. Donc. Laissez jouer les jeunes, man. Laissez-les prendre du galon, laissez-les prendre la confiance, laissez-les prendre de la vitesse. Il y a plein de joueurs qui ont joué NCAA là-dedans ou qui ont joué dans la Ligue OHL, la WHL, ils ont joué plus de matchs, mais donnez du temps. Le Canadien n'est pas prêt à gagner de façon tout de suite. Le Canadien n'a pas besoin d'avoir un autre jeune de 19 ans comme défenseur ou 20 ans en défenseur. Mayo a besoin d'avoir un petit peu plus de stabilité. Il n'est pas super bon défensivement présentement. Il est solide, fait des bonnes mises en échec, mais il se fait déjouer. Donc, c'est le temps pour lui de prendre un peu de vitesse et d'avoir la vitesse de la Ligue professionnelle, même si ce n'est pas une nationale. Puis, il arrivera après. Là. Des calmes à cœur, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Puis, je prêche ma paroisse. Les Red Wings de Détroit ont passé 26 ans à faire ça, ou même 30 ans à faire ça. Laisser les jeunes en bas pour les faire monter après, puis ça a fonctionné. Puis, quand ils ont arrêté de le faire, mais ça a commencé à planter. Donc, c'est plate à dire, là, mais il faut user un peu de patience au niveau des fans. Puis, ça va juste bon pour l'organisation, de toute façon.
Non, effectivement. Puis, tu sais, du côté du Rocket, ça va plus ou moins bien présentement. Donc, tu sais, déjà, les jeunes font face à l'adversité. Puis, c'est quand même bon là, qu'ils voient ça là, dès le départ, de dire « Oh boy, OK, là, c'est plus le junior, là, c'est plus la NCAA, c'est plus l'Europe. Là. L'Europe, là, maintenant, il faut travailler. » Puis faire en sorte qu'on ait des résultats. Donc, honnêtement, je ne toucherai rien présentement là, à ce qui se passe actuellement. Peter qui mentionne, puis ça, je vais te lancer une question là-dessus justement, puis ça donne bien que Peter mentionne ce commentaire-là. Même Slavkovski devrait aller à Laval tant qu'à moi. Est-ce que tu penses que du côté de Slav, on se fie trop sur ses points pour le juger? Parce que je ne trouve pas qu'il joue mal présentement. tu sais, évidemment, c'est pas le joueur dominant d'un choix de première ronde, premier au total, mais si Anderson était le moindrement opportuniste un peu, Slav aurait deux passes de plus à sa fiche.
Là. Effectivement. Puis, tu sais, je vais dire, ben franchement, là, Slakowski est l'exemple parfait présentement de la blessure de Kirby Dach. Et si Kirby Dach est dans le line-up présentement, je pense que Slakowski a plus que deux, un point ou deux points. Je sais pas comment, quatre points, Slakowski, je ne pourrais pas vous dire. En huit rencontres. Là. C'est un joueur qui doit jouer son gabarit. Est-ce qu'il joue vraiment? Non. Ça, c'est la première chose qu'on va dire. C'est un joueur qui a besoin de plus de confiance, oui. C'est un joueur qui a besoin d'avoir des bons joueurs à côté de lui présentement, parce qu'il a juste 18 ans, ou 19 ans, là, je ne me souviens pas. Mais c'est un joueur qui doit jouer plus que Nord-Sud. Et présentement, je joue pas mal. Et seulement moins un. Le problème qu'on a avec Slakowski, c'est qu'on n'a pas de lancer au filet. Donc,
C'est intéressant que tu mentionnes ça parce que c'est là que je m'en allais. Tu sais, quand je regarde Slav jouer, je trouve tellement qu'il manque d'autorité dans son jeu actuellement.
Il veut juste faire des passes tout le temps.
T'sais, on dirait qu'il ne se fait pas confiance. On dirait qu'il veut juste repérer ses coéquipiers puis donner la rondelle. Mais des fois, puis quand il tire, c'est des tirs un peu mollasses. Tu vois qu'il manque de « Écoute, je vais agarrocher sur le net cette époque-là. » On dirait qu'il est comme tout le temps à bout de bras, tout le temps. J'essaie de faire la passe, même si ce n'est peut-être pas la meilleure option. Et c'est ce qui fait mal présentement à Slav, parce que sinon, il fait des beaux jeux sur le long des rampes. Il réussit à garder des fois les attaques en vie.
Bien défensivement aussi, là, c'est un gars qui fait du bon back-check aussi. Là.
Il nuit pas actuellement à l'équipe, mais c'est juste que faut qu'il arrête d'avoir le syndrome du « wow, je suis dans la NHL », puis c'est donc tout beau pour commencer à prendre les devants, puis à se faire confiance, puis utiliser son tir ou foncer vers le filet avec la rondelle plus que qu'est-ce qu'il fait présentement.
Je suis d'accord, puis on regarde beaucoup les points au niveau des joueurs, c'est normal, je pense que la Ligue nationale s'est rendu ça, mais moi je pense que la différence entre un Tanner Person présentement et un Slav, c'est ça, c'est que Tanner Person est opportuniste. Pourquoi? Parce qu'il lance au filet. Il a 18 lancés depuis le début de la saison, Slav n'a juste 10. Donc au lieu de donner la main à tout le monde, je pense que Kirby Dach a arrêté de se faire, parce que Kirby Dach c'est un fabricant de jeu quand même, et là on a une poule pas de tête, là. Josh Anderson présentement, c'est n'importe quoi, là. C'est tellement dommage parce que je pense que c'est un joueur qui pourrait apporter tellement plus aux Canadiens. C'est un joueur robuste, c'est un joueur qui devrait donner des bonnes mises en échec devant le filet et jamais là. Jamais devant le filet. Je pense que, comme tu le dis, si Josh Anderson sera opportuniste un tantinet plus, on aura deux passes côté Slakowski au moins. Mais on le juge peut-être trop rapidement sur ses points, mais en même temps, t'es un choix de première ronde. C'est un choix de première au total. Faut que tu t'attendes à ça, mais il faut vraiment que tu donnes plus un petit peu, je pense. Puis je pense pas que c'est le vouloir, le problème. Je pense pas que c'est le manque de vouloir. Je pense juste que là, c'est du talent à aller chercher. Et là, il faut vraiment qu'on l'entoure meilleur sur le troisième trio. Là. C'est pas avec...
En fait, il joue top 6, c'est sur le deuxième.
C'est deuxième, excuse-moi. C'est pas avec... Tu sais, on a mis New York au centre, évidemment. Là, mais là, c'est pas avec Anderson. Anderson, ça va être plus un gars qui éteint les feux, malheureusement. Là.
Et du côté de Slav, ben, c'est surtout le fait aussi qu'il joue sur le top 6, deuxième trio, puis qu'il y a aussi de l'avantage numérique un peu. C'est sûr qu'il n'est pas sur la première vague, mais il y a quand même quelques opportunités de produire, puis les résultats ne viennent pas. Mais de dire qu'il ne fait rien de bon sur la glace, ça sera avoir de la mauvaise foi. Je pense qu'il fait quand même de belles choses sur la glace. C'est juste qu'il faut qu'il prenne plus le taureau par les cornes, comme il l'avait fait avec la Slovaquie quand il jouait aux Jeux Olympiques et dans les autres tournois aussi. Que c'était lui qui leadait, puis que c'est lui qui traînait son équipe. Mais là, c'est sûr que du côté du. On ne peut pas demander à Slafkovski de traîner le Canadien sur ses épaules à 19 ans.
Mais
faut juste qu'il y ait plus d'autorité dans sa game un peu.
Exact. Puis on le compare avec les choix de première ronde de cette année. On a compare les choix de première ronde l'année passée, puis là, deux ans, puis ça ne fonctionne pas. Puis tu sais, j'en parle jamais, mais Georges Larrigue a parlé encore sur l'émission à midi. Lui, il l'envoyait dans la Ligue américaine. Peut-être ça fonctionnerait pour une trentaine de matchs, choisir le premier trio à l'avantage numérique. Mais il y a déjà ça. Et qu'est-ce que ça va apporter de plus avec la AHL? S'il brûle la Ligue américaine, tant mieux. Si elle brûle pas, ça va juste être pire parce qu'il va arriver et va dire « Je suis encore pas plus bon dans la Ligue américaine. » Choix de première ronde, t'as de la place pour lui. Le Canadien n'est pas supposé faire les séries cette année. Les odds sont bons. Là. C'est pas un manque de talent, je pense. C'est juste un manque de cohérence et d'un manque de compréhension de game. C'est pas un gars qui a le meilleur IQ, mais c'est un gars qui va malheureusement être gros et grand. Il semble pas savoir quoi faire avec son corps présentement, mais ça va venir. Là. Martin Saint-Roux a travaillé avec lui, c'est sûr. Martin Saint-Roux travaille avec d'autres mondes présentement, va travailler avec lui éventuellement, c'est sûr.
Écoute, Steph, on va passer au prochain sujet parce que la semaine passée, quand on s'était parlé, il y avait trois équipes qui étaient invaincues. On avait les Bruins de Boston, les Golden Knights de Vegas, puis les Avalanche Colorado. Et les trois équipes ont perdu. Et non seulement les trois équipes ont perdu, mais les trois ont perdu contre des équipes qui n'auraient pas dû perdre.
Non, non,
et ça a commencé jeudi dernier, alors que les Bruins ont perdu contre les Ducks d'Anaheim.
Ouais.
Ensuite, le même soir, l'Avalanche qui se fait blancher par les Penguins de Pittsburgh, et ça va pas si bien que ça, les Penguins non plus cette année. Et le comble de malheur, les Golden Knights qui perdent contre les Blackhawks de Chicago à domicile, mon Stéphane, à domicile.
À domicile, oui.
Alors qu'on a perdu 4 à 3 en prolongation, c'est quelle défaite parmi ces trois-là qui te surprend le plus?
Oh, c'est l'Avalanche. Écoute, l'Avalanche ont été, après avoir fait 28 buts en 5 rencontres, en ont 0 depuis 2 games. 0. Un gros 0. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec l'Avalanche. Je sais que c'est habituellement, c'est pas la mer à boire. Là. Mais l'Avalanche, cette semaine, n'a pas eu un bon fin de calendrier de semaine. Et celle qui m'a surpris le plus, c'est celle-là. Tu sais, les Blackhawks. Bon, ça se peut que ça va arriver qu'ils vont aller chercher une game comme ça. Mais les Penguins étaient en mauvaise posture. On est arrivé là-bas avec beaucoup de misère quand même. On est dernier dans l'association métropolitaine avec 6 points seulement. Et on a arraché une grosse victoire contre l'Avalanche. Là, les Penguins ont joué un méchant match, je vais vous dire. Là. Donc, moi, c'est l'Avalanche pour ça.
Ah, mais écoute, moi, j'ai pas le choix d'aller avec Vegas. C'était à domicile.
Ah, ça va arriver, là.
En
prolongation, 4-3 prolongation, pour moi, c'est pas. Le Canadien pourrait gagner contre n'importe qui 4-3 prolongation. Ils l'ont fait 2 fois cette semaine.
Ouais, l'affaire, c'est que Vegas aurait dû les torcher 5-0 les Blackhawks. Mmh. C'est ça l'affaire.
Trop de parité à la nationale, mais c'est fini ça. Là. À part San Jose qui vont se faire détruire de la saison, je sais même pas si on va faire une victoire cette année à San Jose.
Je pense quand même que Vegas aurait dû gagner ce game.
Il aurait dû gagner, mais c'est en tout cas. Moi, je trouve que c'est un 4-3. S'il aurait perdu, il aurait gagné, mais il aurait perdu, mettons, 1-0. J'aurais fait ça marche pas. Là. Si tu ne scores pas de but contre les Blackhawks, ça va pas bien. Là. C'est probablement l'équipe qui a le plus facile de scorer des buts avec San Jose. Mais là, tu perds 4-3 en prolongation. On a vraiment appris à la légère cette journée-là. On a probablement vu Connor Bedard s'amuser et puis shit happens. Là. Mais en tout cas, moi, je le vois de même.
Écoute, chacun son opinion, mais moi, je pense qu'il aurait dû gagner contre Chicago.
C'est moi, là, les fans plus capables.
Écoute, Steph, on a un sujet moins le fun un petit peu parce que ça concerne les partisans et ça concerne, en fait, tout le monde. Là, la LNH là, qui va... décentraliser son repêchage après un vote qui semblait peut-être pas unanime, mais selon Elliott Friedman, là, c'était quand même assez convaincant là, que les équipes de la LNH là, souhaitaient vraiment qu'on fasse marche avant là-dessus. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Steph, tu vas peut-être plus être en mesure de l'expliquer que moi parce que ça va ressembler en fait là, avec le repêchage de la NFL. Si je me trompe pas, c'est que les espoirs se déplacent à une place précise, mais les équipes, eux, sont comme dans leur headquarter, qui sont comme dans leur HQ, puis ils font leur pick de. Ben, pas de chez eux, mais exemple, là, probablement que le Canadien va se réunir genre à Brossard, puis ils vont faire leur pick à Brossard, alors que
les
à Toronto. C'est vraiment les espoirs qui se déplacent à une place, mais les équipes qui sont un peu en remote, là, puis vont faire leur choix là, à distance. Première pensée par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses, Steph? Est-ce que tu penses que
c'est facile? C'est super facile. Le draft de la NFL à chaque année, c'est environ 13 à 16 millions de personnes qui regardent ça. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est le football américain. Le repêchage national à chaque année, c'est entre 1,6 et 2,5 millions. Donc, l'année passée, on a atteint 2,5 millions à cause de Bedard. L'année d'avant, avec Slakowski, c'était 1,3 millions. Donc, les codes d'écoute sont meilleurs. Pourquoi que moi je trouve que c'est bizarre que la Ligue nationale veuille faire ça? C'est qu'on copie quand même un côté de la médaille que la NFL fait de bien. Ce qui est le fun avec la repêchage de la NFL, c'est que c'est 36 heures non-stop. Donc c'est vraiment une fin de semaine. Ça n'arrête pas. Il n'y a pas d'heure de coucher. On n'arrête pas. C'est de la première à la dernière ronde. Et on n'arrête pas tout le long de la journée, même de la nuit. Donc ça, la différence avec la NFL. Mais en même temps, en ayant toute la gang ensemble, ça coûte beaucoup moins cher pour les équipes. Donc, on veut peut-être économiser de l'argent au niveau des équipes, au niveau des joueurs, au niveau des organisations aussi. Donc, en ayant tout le monde, mettons, à Brossard qui est là, toutes les personnes qui s'occupent des équipes sont là. C'est pas juste les 12 ou les 11 mêmes personnes qu'on voit à la tablée depuis longtemps avec National. L'autre chose qui est le fun aussi, c'est pour les joueurs, c'est que tous les joueurs sont à la même place, donc ils vont être célébrés. Il va y avoir un spot de caméra, il va y avoir des plus d'entrevues. Dans la NFL, les gars sont beaucoup plus présents pour les médias parce que les gars sont tout seuls. Les organisations les bloquent pas tout de suite. Donc, ce qui arrive, c'est que le gars se fait appeler au téléphone. « Salut, blablabla, comment ça va? Moi, je veux te rendre dans mon équipe. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis prêt à faire ça, ça, ça. » Et ça se fait. En même temps, aussi, d'autres qui se fait bien, c'est les échanges pendant le repêchage qui sont cool parce que les dirigeants s'appellent à travers la ligue. Donc, qu'est-ce qui est hot, c'est que les caméras vont être dans les places, dans les spots que les équipes vont être, puis les jeunes joueurs ne le seront pas. Donc, ça donne un cachet différent, mais c'est vraiment un happening dans la NFL. Donc, on a c'est plus gros que nature. On fait plus d'affaires, plus d'entrevues. C'est vraiment une chose qui est plus grosse dans la NFL. Est-ce qu'on veut s'en aller vers là par la Ligue nationale? Je pense que oui. Je pense qu'on va chercher des nouveaux fans et on va faire de quoi d'extraordinaire, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas le style de la Ligue nationale. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est bizarre. J'aime le fait qu'ils veulent faire ça. Je pense que c'est une belle idée, mais en même temps, c'est bizarre. C'est pas le genre Gary Bettman de sortir de la boîte comme ça puis d'essayer quelque chose. Et c'est peut-être les dirigeants qui l'ont demandé. C'est peut-être les agents qui l'ont demandé aussi. Parce qu'on va avoir plus d'emprise sur les joueurs que là, tu sais. Honnêtement, moi, j'étais curé de regarder le repêchage après les 7, 8, 9, 10e parce que c'est toute la même affaire. L'équipe s'en va en avant, ils nomment le nom, ils font une erreur de nom, ça fait un scandale. Non, ça, c'est Gary Pierce, excusez-moi. Mais en tout cas, ils nomment le nom, après ça, le gars arrive, ça lui prend 5 minutes, s'en est là-bas, prend le chandail, serre la main à Gary Bettman, l'autre, il dit bonjour à tout le monde. C'est juste que c'est. Il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup de temps en poche. Tandis que là, ça va être différent, je pense. Puis, si vous avez regardé aussi Draft Day, le fameux film avec Kevin Costner, c'est le même principe de qu'est-ce que la Ligue nationale veut faire. Et moi, je vais laisser la chance au coureur cette année. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va implanter comme système. Il y a des bandes de musique, c'est dans un petit amphithéâtre, c'est toujours plus petit. Puis, vraiment, on va probablement faire ça à Vegas à chaque année ou dans des places comme ça. Mais c'est sûr que ça fait drôle de dire que le draft sera pas avec tous les joueurs parce que je pense que. Moi, j'ai entendu parler dans une rumeur que le Canadien recevrait encore le draft en 2025 ou 2026. Donc, en tout cas, je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça.
On parle que ça commencera à partir de 2025, puis peut-être même dès le prochain repêchage. Donc,
on va voir comment ça va aller.
Bon, là, tu as mentionné les côtés positifs. Moi, je vais aller dans le pisse vinaigre un peu. Je vais mentionner ce que j'aime pas de cette annonce-là. C'est qu'encore une fois, on punit les fans. Là, je veux dire, oui, c'est bien le fun de regarder ça à TV, mais les partisans, tu sais, quand tu regardes, là, Je vais mettre Montréal en exemple. Tu sais, on était en live quand on l'a fait. Là. Mais tu sais, quand on a annoncé les deux trades back-to-back du Canadien, là, ouais. Comment l'ambiance était au Centre Bell, qu'on était comme « Wow, qu'est-ce qui est en train de se passer? » Ben, ces moments-là, on les aura plus parce qu'on va tous être assis à notre salon puis « Ah ouais, c'est le fun, ce trade-là. » Fait que tu sais, ça, c'est le côté que j'aime pas parce que, encore une fois, les équipes ont pensé à sauver de l'argent puis se contre-torche des partisans. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des marchés que c'est plus difficile que d'autres puis que ça... Sauver cet argent-là, ça va peut-être aider à long terme, mais tu sais, je vais laisser la chance au courant là-dessus. On va voir comment ça va être présenté, tout ça. Peut-être que ça va être super le fun aussi, mais je trouve que pour moi qui voulais assister à un repêchage live, ben là, je peux faire une croix là-dessus parce que ben, est-ce qu'il y a des partisans qui vont quand même aux places que les joueurs sont? Mais tu sais, encore là, c'est pas la même chose. Tu vois pas les équipes justement qui sont en train de magouiller d'un coin puis tout ça. Là, tu vas juste avoir les espoirs qu'on. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans la NFL quand ils sont nommés. Y a-tu un stage? Y a-tu. C'est quand.
Ils vont. Souvent, sont à la maison. C'est encore pire. Là. Souvent, les choix des choix
sont à la maison.
Il y en a qui sont sur place. Les autres veulent le faire sur place avec la LNH. Mais la NFL, souvent, sont à la maison. Puis les autres, ils reçoivent le chandail à la maison. Là.
OK. Fait que dans le fond, il y a.
L'agent est là. Puis il y a 4-5 chandails devant eux autres. Puis quand le choix est choisi, ils pognent le chandail. Fait que souvent, les joueurs savent quelle équipe. Puis ils sont en demande. Mettons, je sais pas, moins 4-5 équipes qui ont voté pour eux autres. Ils ont les 4-5 chandails devant eux autres. Puis ils peuvent mettre le chandail qui vont
mais
faire.
Tu sais, la NFL, il n'y a pas une place, mettons, que tous les joueurs se réunissent. Puis qu'ils vont. Sont vraiment. Il n'y a personne. Genre, tout le monde est en même temps.
Là, tu me poses un blanc, là, mais.
Parce que je sais que la NBA, il y en a qui sont comme présents là. J'imagine que c'est plus les top prospects là, qui sont là. Mais bref, pendant que tu cherches, le deuxième point que je veux mentionner, puis ça, c'est un très bon point qu'Elliot Freeman a fait dans son podcast 30 Thoughts. Puis tu sais, 32 Thoughts. Puis tu sais, ça, honnêtement, ça me touche moins, mais c'est vrai que pour les. Ce qu'il mentionnait, c'est que tu sais, si le repêchage devait être décentralisé, ben, pour ceux qui commencent leur carrière en termes de journaliste, ben, c'est un rendez-vous manqué pour eux de se faire des contacts. Puis on sait que ce qui est très important quand tu commences en tant que journaliste, c'est justement se faire des contacts, rencontrer les autres personnes qui couvrent les équipes ailleurs, rencontrer les dirigeants et tout ça. Ben là, ça va enlever cette opportunité-là. Fait que c'est un peu une grosse douche d'eau froide pour eux. Mais tu sais, comme je dis, pour moi, ça me dérange. Moi, ça, je m'en fous, ça me dérange pas, ça me touche pas. Mais c'est quand je pense à ceux qui commencent dans le business, ben, c'est sûr que c'est plus rough de pouvoir se faire des contacts à ce niveau-là. Parce que le repêchage, c'est vraiment un gros rendez-vous là, que tout le monde se réunisse à une place. Puis que tout le monde est là. Les médias de toutes les équipes pratiquement sont là. Toutes les équipes sont là. Fait que c'est vraiment la meilleure place pour rencontrer des gens. Puis c'est plate que, parce qu'Eliott Freeman avait fait aussi une bonne suggestion à son podcast. Il avait mentionné que la LNH, s'ils veulent vraiment faire un happening avec le repêchage, comme on fait avec la NFL et tout ça, tu sais, ce qui est vraiment populaire, surtout auprès des jeunes, c'est les fameux cons. Tu sais, les espèces de tu sais, les Comic-Cons, les... je ne sais pas c'est quoi le terme en français. L'espèce de convention, je ne sais pas si c'est le bon terme en français.
Convention, oui, c'est bon.
Tu as une convention de, je sais pas moi, de gaming à une place, une convention de film à telle place. Ben, la LNH, j'aurais fait la même chose. Tu sais, mettons, le repêchage serait le point central, mais tout au long du week-end, tu as des activités reliées à ça. Tu sais, tu as des anciens joueurs qui viennent rencontrer les fans. Tu as des... puis c'est Jeff Merrick, lui qui fait le podcast avec Elliott, qui mentionnait qu'il pourrait avoir des représentants d'équipement. Mettons, CCM, Bauer, Warrior pourrait se présenter là, puis il pourrait faire essayer le stock qui s'en vienne là, aux partisans. Tu sais, il pourrait avoir un week-end, vraiment faire un happening avec ça, puis les équipes en feraient de l'argent à ce niveau-là. Je pense pas qu'il y avait besoin de décentraliser le draft puis copier encore une fois une autre ligue au lieu d'être créatif par nous-mêmes. Mais bon, écoute, c'est sûr qu'on aime ça dans LNH, copier des formules gagnantes d'ailleurs, mais ce serait le fun des fois qu'on serait plus créatif par nous-mêmes que juste copier ce que les autres font.
Écoute, je confirme, c'est à la maison. Donc souvent, ils sont avec famille et amis puis le draft se fait là.
Ben écoute, comme j'ai mentionné, tu sais, oui, ça me fait suer cette décision-là, mais je vais quand même laisser la chance au courant de voir comment ils pensent organiser ça. T'sais, ça se peut que ça soit vraiment bien fait, mais c'est sûr que si on a accès à absolument rien, que tout ce qu'on voit, c'est les équipes qui font les picks un en arrière de l'autre, puis qu'il n'y a pas vraiment de... tu sais, je m'entends pas non plus
souvent, à toi. Là, tu sais, c'est... T'sais, mettons, le choix est choisi, Goddard en avant, puis c'est lui qui va annoncer le choix, mais il y a une vidéo qui se fait pour les internautes. Donc, il y a une vidéo qui se fait pour nous autres à la maison de peut-être 5-10 minutes. C'est les parents, les amis, les coachs qui parlent de la personne qui va être repêchée au premier, deuxième, troisième, quatrième rang. Puis après ça, mais tu sais, la NFL, c'est différent. C'est rare que les choix de première ronde, c'est, on ne les sait pas d'avance. T'sais. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Puis quand il est choisi, on le voit à la maison souvent, mais là, il y a les pleurs et tout le kit qui se passe. Puis pour ça, ils font une autre vidéo de lui après ça. Fait que ça dure toujours un genre de 10-12 minutes par personne à peu près. Hein.
OK. Tu sais, je ne sais pas si aussi on peut voir peut-être, c'est sûr qu'on ne verra pas mettons les équipes qui sont en train de débattre là, pour le choix et tout ça. Mais tu sais, j'espère qu'il va y avoir du contenu un peu. Ouais. Créatif de pas juste là, qu'on vois. Voit un pic en arrière de l'autre puis qu'on voit des vidéos package de joueurs puis leur like.
Là, tu le vois. Tu vois la caméra, mettons, t'écoutes là, puis là, il y a le vidéo, puis d'en bas à droite, t'as la caméra live dans le bureau de l'équipe qui va choisir le prochain, puis là, tu vois les téléphones sonner, puis tu vois les gars parler, puis c'est quand même. Tu sais, la NFL, pour avoir autant de monde qui la regarde, ça doit être pas pire, là, fait que.
Non, c'est sûr que c'est un bon point, mais tu sais, encore là, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Là, comme on a mentionné, on ne sait pas encore trop quand ça va toucher. Certains parlent que c'est à partir de 2025, mais la possibilité serait là pour 2024 aussi. Je ne sais pas, je pense, on a-t-il annoncé où est-ce que le repêchage va avoir lieu en 2024? Je ne sais même pas si ça a été annoncé d'avance, là, mais on verra bien là, si on va y aller de l'avant dès cette année ou si on va attendre un an pour mieux réfléchir à tout ça pour savoir comment on veut diriger le tout. Steph, tu avais-tu des sujets que tu voulais mentionner, des what the fuck, des...
Ouais, j'en ai. J'ai des sujets quand même, là. Écoute, fallait parler un petit peu de la retraite de Jumbo Joe. Effectivement, Joe Thornton a annoncé sa retraite cette semaine. Donc, on parle d'un joueur qui a commencé late, là, avec les Bruins. C'est un des joueurs qui a commencé late. Donc, Jumbotron, c'est quoi? C'est quand même 1714 matchs en carrière. Calculer ça, là, c'est vraiment, vraiment beaucoup de rencontres. Pas beaucoup de blessures du côté de Jumbo Joe. 430 buts en carrière. C'était pas un grand marqueur, mais c'est un fabricant de jeu incroyable. On s'en souvient le nombre de passes par année. Et je vous rappelais, en 2006-2007 avec les Sharks, ça avait eu 92 passes en année. Donc, c'est assez incroyable. 1109 passes pour 1539 points en carrière. Donc, parmi les... je pense qu'ils sont juste 13 ou 14 en haut de 1500 points dans l'histoire du hockey. Plus 182. Assez incroyable, ça, avec. On en voit pas souvent des gens faire ça. Mais une statistique qui m'a impressionné, c'est le nombre de minutes de punition. 1272 minutes de punition. Donc, Big Joe qui s'en laissait pas imposer avec les Bruins entre les années 2000 à 2004. C'est surprenant avec 100 000 de punition par saison. Et évidemment, il a fait des séries. Il a fait des séries souvent, mais il n'a pas gagné la Coupe Stanley. C'est probablement des seuls awards qu'il n'a pas eu, malheureusement. Il a gagné le Hart en 2005, le Hart Trust en la même année avec 81 matchs de jouer. Mais ça n'a pas été une carrière facile pour Jumbo quand même, Jumbo Joe. Donc, fallait que je le souligne. Ça, c'est une des choses. L'autre chose, mais on en a parlé un petit peu tantôt avec Jack Hughes. Je pense qu'un début de saison incroyable. Là, c'est sûr que ça va s'estomper un petit peu. Finira pas avec 2.4 points par match, là, évidemment. Mais je pense que c'est le fun à voir du côté des Devils. C'est une belle équipe en ascension, des bons jeunes joueurs. Et cette semaine, il a déculotté la défensive. Là. Je me souviens pas de quelle défensive, mais un ralenti jeu pour juste partir en fou puis voir ça. C'est le fun de voir comment que le talent des nouveaux joueurs et des nouveaux jeunes sont. Et Jack Hughes, je fais pas effet, là, donc c'est vraiment le fun. Mes deux autres sujets, c'est deux questions. Puis on va en débattre un petit peu. Ça fait 50 minutes qu'on est là, mais je pense qu'on peut en parler quand même. La classique hivernale. Puis ceux qui l'ont écouté hier, c'est quand même un bon match. J'ai des Flames contre les Oilers. Évidemment, ça représentait le 20 ans, la 20e année qu'on fait ça. La première année où on avait fait ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la fameuse tuque de José Théodore, le Canadien qui avait joué contre les Oilers. Donc, on est revenu avec ça. Et ma question est simple, c'est est-ce qu'on est dépassé avec ça? Puis pourquoi ma question est simple, c'est est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on est dépassé avec ça? Ou tu sais, quand même 55 000 personnes qui étaient là hier, on en fait 3 cette année, dont un à Seattle. Est-ce que c'est trop? Puis ma question que je te pose, Max, c'est ça, c'est pour les internautes, c'est est-ce que c'est trop? Est-ce que vous la regardez vraiment? Est-ce que ça vous intéresse vraiment ou c'est vraiment le genre d'événement qu'il faut absolument être là pour qu'on aime ça?
Ben écoute, veux-tu que je sois franc avec toi, Steph? J'ai écouté le match parce que c'est un game Oilers Flames, pas parce que c'était une game à l'extérieur. Je veux dire, je pense que le fait que lorsqu'on avait fait des Stadium Series là, plusieurs années, qu'il y en avait quasiment 6-7 games par année, je pense qu'on a tué le concept de rester là. D'après moi, là, ce concept-là, tu le gardes le 1er janvier, c'est pendant les fêtes, tu mets le 1er janvier, classique hivernal, that's it. C'est une par année, c'est en masse, ça garde l'effet spécial que c'est un match qui n'est pas comme les autres, mais quand tu en fais 5-6 par année, puis que des fois, c'est même pas des bons match-up entre les équipes. Elle qui va être intéressante, c'est Seattle contre Vegas, là, parce que c'est une équipe d'expansion, tu sais, je veux dire, il y a un petit cachet à ça, mais sinon... Tu sais, maintenant, je regarde plus les matchs parce qu'il y a des bons match-ups, mais pas tout le temps, plus que parce que c'est à l'extérieur. Tu sais, je veux dire, un match Ducks contre Kings à l'extérieur, quand les deux équipes n'étaient pas si bonnes que ça, pff, je m'entorche un peu. Là. Mais quand même que ce soit dehors, je m'entorche un peu. Tu sais, il va falloir que la LNH réussisse à trouver une façon de d'être encore plus créatif avec ça parce que le concept est brûlé.
C'est intéressant. Et l'autre que j'avais, mais on a parlé tout le long, puis je pense que c'est pas un sujet, mais moi j'ai marqué Slakowski et Nkeke, c'est le même débat. Et je pense qu'on est zéro patient du côté du Canadien avec ces jeunes joueurs-là. Les partisans ne sont pas non plus. Mais est-ce qu'on est en train de brûler nos choix de première ronde encore? Est-ce qu'on est encore de mal? Et on a parlé un petit peu tantôt. Puis j'étais content de voir la réponse que tu donnais, c'est que c'est peut-être pas vraiment sa faute. Et c'est peut-être pas non plus. Je pense que c'est des concours de circonstances. Je pense qu'il travaille fort. Puis je pense que la différence entre Keke et lui, c'est ça, même si Keke présentement débloque. Donc c'était ça mes quatre sujets.
Moi, mais écoute, c'est juste une petite parenthèse là-dessus, ce qu'on avait parlé la semaine dernière, puis ça vient à ce que je disais, c'est qu'on se fait des attentes en comparant les autres QV et les autres joueurs, mais c'est pas ça. Tu sais, je veux dire, la QV de 2022, à la base, est plus faible qu'elle d'une autre année. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas à cause que le gars qui a été repêché premier au total en 2019 a fait tant de points à sa première saison. Ça veut pas dire que le gars qui est repêché en 2022, première ronde, premier au total, qui va faire la même affaire. Je veux dire, il y a des QV qui sont plus fortes que d'autres. Malheureusement, 2022, c'était pas la QV la meilleure. Ça, c'est pas un Connor Bedard qui a été repêché premier au total. Puis ça, on le dit depuis le début. Puis même si ça avait été Shane Wright, c'est même pas le même débat non plus, dans le sens que Bedard, il est juste une coche au-dessus. Là. Je veux dire, Wright, on le voit, il est même pas encore dans la LNH actuellement.
Oui, effectivement, c'est un bon point là-dessus. Et mon what the fuck, mais écoute, si nous qui ont regardé la game des Devils, probablement que Savancy l'a regardé, les Devils contre le Wilds Minnesota, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé entre Jack Hughes et Marc-André Fleury devant le but pendant que le jeu se faisait? À deux occasions, ils se sont parlé, ils se sont touchés. Écoute, Savancy, si t'as des plugs, dis-nous-les, je sais pas ce qui s'est passé là, mais écoute, c'était vraiment cocasse. Puis quand j'ai vu ça, j'ai comme cligné les yeux, j'ai rewindé pour être sûr que c'était correct, puis j'ai fait hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, vraiment une drôle là-dedans. Ça, c'est mon moment what the fuck de la semaine.
Avant d'aller avec le segment sur réception, on a quelques commentaires. Samanti qui mentionne, est-ce que les Sharks vont faire, parce qu'on t'entend parler des Sharks, là, que tu dis que ça allait pas bien, est-ce qu'ils vont faire pick 92-93 alors qu'ils avaient, attention, l'affiche, roulement de tambour, 11-11-0 sur 84 games. Ben écoute, à voir l'équipe qu'elle est actuellement, là, je pense qu'elle peut faire effectivement pire que ça, sérieux, là, cette équipe-là est décourageante à voir aller. C'est pas Jojo du côté de Tannosé.
Et puis il y a même un bet à Vegas présentement qui pense qu'il pourrait être winless. Donc, il y a un montant que tu peux mettre qui n'aurait aucune victoire. Écoute, on a 0-8-1 du côté des Sharks et je me vois pas comment que cette équipe-là peut gagner. Écoute, on en a parlé la semaine passée un petit peu. Marc-André Vlasic qui a été cloué au banc en fin de semaine. Ça va vraiment pas bien du côté de San Jose. Et je peux pas croire que cette organisation va remonter avant les 10 prochaines années. Là. C'est une catastrophe ce qui se passe là présentement. Et Thomas Chartel doit avoir hâte de vouloir partir. Écoutez, là, regardez juste comment ça fonctionne présentement du côté de la Ligue nationale avec eux autres. Là. Présentement, on, je vais juste prendre deux petites secondes. Là. Nous avons vu une défaite en prolongation. On a 9 buts pour et 35 buts contre. Okay. On a perdu nos 7 derniers matchs, évidemment, puisqu'on a perdu tous nos matchs. Thomas Chartel est moins 6, Zetternoun moins 4, Philippe Zedina moins 9. Thomas Berdelot, qui est le quatrième marqueur, est à moins 5. Moins 8 pour Anthony Duclair, qui est méconnaissable. Pourri dans mon pool, puis maudit que je ne devrais pas l'avoir dans mon pool présentement. Fevero, Kooning, Benning, moins 6. Mike Hoffman, moins 7. Continue ses habitudes d'être dans. Pour moi, il s'ennuie de Montréal, il est encore à moins 7. Donc, le seul joueur qui est positif du côté des Sharks de San Jose, c'est Michael Granlund, puis il a joué 2 games, puis il est plus 1. C'est tout.
Ouais, c'est pas mal. Ça tient de résumer la situation des Sharks en une phrase.
Nico Schtroom, 0 points, moins 6 en 9 rencontres, seulement 7 lancés. Après ça, Jan Ruta, moins 7 en 9 rencontres, seulement 9 lancés. C'est pathétique, là. C'est, ça n'a aucun bon sens.
Peter qui mentionne dans le chat si on a vu l'arrêt de John Gibson sur Crosby ce soir. Je ne l'ai pas vu, mais on va sûrement voir les fins saignantes sur les réseaux sociaux tantôt. Donc, je vais regarder ça.
C'est rare si vous Crosby lancer puis faire comme « Eh! » J'ai fait ça de même, vous dire.
Écoute, Steph, es-tu prêt pour mon segment sur réception?
Yes, je sir!
Là, j'espère que les attentes ne sont pas trop élevées dans le chat parce que, honnêtement, mes questions ne sont pas si bonnes que ça. Il y a les deux premières, dans le fond, c'est un peu une rétrospective sur les 3 premières semaines. Je sais que c'est encore tôt, mais on commence à voir quand même quelques tendances. Donc, en fait, je dirais que les 3 premières questions sur 4, c'est un peu une rétrospective des 3 premières semaines. Première question, petite facile. Je veux dire, c'est un choix de réponse. Quelle équipe t'inquiète le plus présentement entre les Oilers d'Edmonton et les Penguins de Pittsburgh? Parce que les Penguins ont été censés avoir été chercher le gros char avec Eric Carlson, mais les résultats ne sont pas plus là. Non?
Écoute, ceux qui pensaient que Carlson était pour ramener l'eau au moulin, vous n'avez pas compris c'était quoi un moulin, premièrement. Là. Deuxième des choses.
pas le
fait qu'il tourne avec les pales. Oui, c'est ça. Quand le niveau de l'eau est en bas, ça ne change rien. C'est une panne qui arrête en haut. Donc, non, j'en ris, mais c'est sûr que c'est vraiment dommage du côté des Pingouins parce que je pense qu'on voulait donner un dernier coup au niveau de cette équipe-là, mais je pense qu'on a besoin de plus que ça du côté des Pingouins. Et présentement, ce qui gosse, je pense, c'est que le fait qu'on ne semble pas être capable de gagner des rencontres. Écoute, nos deux gardiens de but, Nedeljkovic va pas si mal que ça. Tristan Jarry va vraiment pas bien. Puis on n'a pas de depth défensivement dans cette équipe-là. C'est épouvantable. Donc, je pense que c'est ça le problème. On a quand même des bons attaquants. Le Gwenzel, Ross, Malkin, Crosby vont quand même bien. 9 points pour les 3. Sobran Ross à 7 avec 5 buts déjà. Mais je pense qu'on a 0 après. Donc, on t'en avait parlé un petit peu. Je t'avais donné un petit peu le crédit, mais je n'étais pas sûr de mon côté. C'est une équipe que j'aime quand même, les Pingouins. C'est une équipe que j'aime voir gagner. Évidemment, on va voir Crosby gagner. Mais ça va être difficile, puis je pense qu'il va falloir vraiment qu'au niveau des états-majors, on décide d'aller chercher du monde. Là. C'est beau ce qui s'est passé cet été, mais on voit vraiment qu'on a besoin de plus présentement.
Écoute, moi je vais y aller avec les Oilers pour la simple et unique raison que les Pingouins, je m'attendais à ce que ça fasse ça. Là. Je veux dire, toute bonne chose à une fin à un moment donné, puis je pense pas qu'en allant chercher Carlson, ça allait tout sauver là, au niveau de cette équipe-là. Il n'y a pas de def offensivement. Après Crosby, Malkin, oui, t'as Ross, puis t'as Genzel, mais après ça, c'est vite, il n'y a pas grand-chose là, de bon. Puis devant le filet, ben Jerry, on ne sait jamais lequel qui va se présenter à chaque soir. Fait que c'est un peu une roulette russe à chaque fois.
Mais les Oilers, c'est juste plate parce que c'est pas un problème d'offensive. C'est ça l'affaire. C'est qu'on est...
Au début, les gardiens n'arrêtaient pas les rondelles.
C'est moi sacré, là, mais Stuart Skinner, il a une victoire, deux défaites, 863, 3.51. Puis Jack Campbell, le contrat le plus stupide de l'histoire des Oilers, une victoire, trois défaites, 4.35 avec 878. Je te le dis, Max, là, je mets un cône dans le but puis arrête plus de rondelles. Ça n'a aucun rapport. Là. Puis, tu sais, on a bien beau du côté des Oilers de dire qu'on est bon offensivement. Là. On ne pourra pas marquer 7 buts à chaque game sans faire scorer 6. Je peux pas les mettre là parce que on le sait qu'ils sont pas bons dans les goalers, on le sait qu'ils seront juste pas bons pour goaler, puis on continue à aller voir avec des goalers pas bons. On continue à avoir Connor Brown sur le premier trio qui a 0 point, moins 5 en 8 rencontres. Tu sais,
c'est un peu le même problème que du côté des Pingouins. Après Draisaitl puis McDavid, Nugent Hopkins et une fois de temps en temps, Kane
a un bon match. Evan Bouchard a une grosse saison. Là.
Oui, en défensive.
Il est moins 7, mais il y a 9 points. Ouais, mais
c'est au niveau de l'attaque. Là. Je veux dire, après McDavid, Draisaitl, tu as Nugent Hopkins qui fait de quoi un peu. Evander Kane qui a un bon match samedi, mais après ça, il n'y a rien. Comme tu as dit, ce n'est pas les Connor Brown, ce n'est pas les Rowan Fuegel qui vont faire une différence. Même Dylan Holloway, je trouve qu'il est assez décevant pour un choix de première ronde présentement. Il ne fait pas tant grand-chose. Pendant ce temps-là, ben, tu as des Xavier Bourgault qui va quand même bien dans la AHL, puis tu as des Raphaël Lavoie qui est là aussi, qui attend son tour. Rendu là, essayez-les, ça ne peut pas être pire que ce qu'ils ont présentement là, au niveau du deuxième et troisième trio là, du côté d'Edmonton. Puis on a vu que quand McDavid n'est pas là, ben, oh boy, tu sais, je veux dire, oui, Draisaitl essaie de faire ce qu'il peut, mais à un moment donné, c'est pas le même calibre que tu es habitué de jouer avec un gars comme McDavid, tu sais où ce qui s'en va. Tu sais que si tu envoies la passe un peu trop en avant, tu sais qu'avec sa vitesse, tu vas être capable d'aller la chercher. Mm-hmm. Quand tu as la même affaire avec un Connor Brown, l'histoire est différente un peu. Il y a Zach Hyman, c'est vrai, qui est quand même pas mauvais aussi, Hyman, mais il manque quand même d'offensive. Oui, il y a une grosse offensive à cause de deux gars, mais au niveau de la profondeur à l'attaque, il en manque encore.
Puis ça,
ça, c'est en plus des gardiens qui arrêtent plus rien.
Puis c'est arrêter rien, ça arrête de rien. Hey, ceux qui regardent le hockey en même temps, là, Charlie McAvoy va être suspendu, c'est sûr, certain. Quelle mauvaise mise en échec sur Mark Larson. Chaque grosseur après le podcast, quel bulot ça vaut. Ce joueur-là réussira jamais avec National plus que ce qu'il fait là. Incroyable.
Deuxième question, et ça va concerner tes Wings, Steph. Donc, mais je te demande quand même de répondre sans être fan, mon cher Steph.
Pas fan de moi.
Parce que les Red Wings et les Canucks ont deux bons débuts de saison. Ouais. Selon toi, entre tes deux équipes, qui a le plus de chances de tenir son bout et de faire les séries à la fin de l'année?
Oh! Ça, c'est une bonne question, par exemple. Écoute, moi, je pense que ça va être les Red Wings pour une chose. Je pense que les... Non, je pense pas. Puis, ce que j'aime des Canucks présentement, c'est qu'on marque des buts. C'est sûr que du côté des Wings, c'est la même chose. On a 36 buts pour du côté des Wings. On a quand même, je pense, c'est 31 du côté de Vancouver, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je pense juste que Vancouver, on n'est pas rendu là. Puis que les Red Wings n'ont pas le choix cette année. Puis je le dis de même en étant peut-être un petit peu mange-marre de mon équipe, mais je pense qu'on n'a pas le choix d'avoir une bonne saison. En même temps, du côté de Vancouver, on a enfin un Demko qui est là en santé. Je pense qu'il va être là pour le restant de la saison aussi. Donc, je te dirais que le niveau des gardiens de but me stresse un petit peu plus du côté des Wings, mais je trouve que Yusso et Reimer fait bien. Yusso fait correct, mais présentement, il n'est pas obligé de gauler sa tête pour gagner. Puis Reimer fait vraiment la job avec 940. Tandis que du côté de Vancouver, notre deuxième gardien, c'est Casey DeSmith qui fait vraiment bien. Et moi, ça me surprend. Donc, on a une bonne équipe du côté de Vancouver. Mais c'est quoi? C'est sûr que je suis un petit peu plus partisan, c'est normal. Mais je pense que le duo. Écoute, hein, c'est tellement une bonne question. Plus je regarde les statistiques, plus je regarde les équipes, plus que je me dis que Vancouver va passer.
Mais c'est quoi? Moi, je vais te dire Vancouver.
Je pense que Vancouver a plus de chance.
C'est la simple unique raison que tu sais, je regarde présentement dans la division. Ben oui, on va y aller avec l'Atlantique en premier. Il y a plein d'équipes qui sous-performent actuellement. Tu sais, je veux dire, le Lightning, je sais que tu es haï, le Lightning. Mais quand Vasilevski va revenir, devrait revenir aussi sur le chemin de la victoire. Là. Encore ce soir contre le Kraken. Ils sont en prolongation actuellement, mais ouf que ça n'a pas été facile. Les Panthers, je m'attends à plus 2 présentement. En revanche, le Canadien, je pense qu'ils vont dropper là, éventuellement. Mais tu sais, il y a quand même des équipes, même Ottawa, à la limite, là, que je trouve que ça a bien démarré. Mais là, on commence, on a frappé un peu un nœud. Puis là, il y a des rumeurs aussi avec DJ Smith qui n'était pas là à l'entraînement ce matin. Est-ce que ça sent le congédiement? Il y a plein de choses qui se passent tout croche. Le dossier de Shane Pinto aussi. Donc, c'est assez croche là, au niveau d'Ottawa. Donc, ça va peut-être un peu. Puis évidemment, la blessure de Thomas Chabot qui n'aide pas, la blessure aussi d'Eric Brandstrom. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui se passent du côté d'Ottawa qu'on dirait que ça ne décollera pas. Mais n'empêche que je pense que Tampa, Floride peuvent en donner plus. Mais quand je regarde la division du côté de la Pacifique, Anaheim ne montrera pas plus. Le Kraken ne m'impressionne pas. San Jose reste dans la cave, ça c'est sûr. Calgary, je suis un peu mi-figue, mi-raisin qu'eux autres. Il y a Edmonton qui devrait remonter éventuellement si les gardiens peuvent recommencer à arrêter des rondelles. Mais tu sais, sinon...
C'est pas une grosse division, t'as raison. Je trouve que
le chemin est quand même très ouvert là, pour les Canucks. Là.
Effectivement, puis on voit pas le Kraken aller loin cette année. Donc, quoi, t'as raison, je pense que Vancouver. Puis honnêtement, enfin, puis je suis content pour les fans de Vancouver qui nous suivent, là, les millions qui nous regardent présentement. donc, je suis quand même content pour eux autres. C'est une équipe qui était vraiment sous les attentes, je pense, depuis les 3 dernières années. Et là, on s'en va ailleurs. Donc, ça va faire du bien. Puis ça va faire du bien à Pettersson, qui malheureusement est un peu dans l'ombre. Il est un petit peu un négligé, je pense, dans les meilleurs joueurs nationales, puis ça va faire du bien du côté de Vancouver.
On est maintenant avec la question numéro 3. Est-ce que tu crois encore que Connor Bedard est le favori pour remporter le trophée Calder? Parce que présentement,
il est même pas top 3, il est
au 5e rang au niveau des recrues.
Exact.
Et Ridley Gregg qui est en avant, il y a aussi Logan Cooley qui est en avant. Puis les autres, là, les noms m'échappent. Là, mais je sais qu'il est rendu.
Hughes, puis Bobby Brink.
Qui sont devant lui.
Mm-hmm.
Donc, est-ce que tu penses que Connor Bedard a encore la voie si facilement vers le trophée Calder ou si tu penses que c'est peut-être plus ardu que prévu?
Ça va être plus ardu, puis honnêtement, ça va l'être parce qu'on va se le dire, les joueurs en avant de lui ont des bien meilleures équipes. Puis là-dessus, tu peux rajouter Matthew Poitras. Parce qu'évidemment, il vient de l'Ontario. Là. Donc, Matthew Petra, qui est à 5 points aussi. Puis Luke Evangelista, qui est à 5 points aussi. Mais on n'a pas une bonne équipe du côté de Connor Bedard. Et dans les 10 premiers qui sont là, un petit peu avec 4 points et plus, mettons les 12 premiers que Marco Rossi, qui est 4 points aussi, c'est le seul qui est dans le négatif avec Adam Fantilli, qui sont deux équipes qui sont médiocres, selon moi. Donc, Ottawa va vraiment bien. Riddick Greig va super bien avec Ottawa. Bobby Brink avec Philadelphie, honnêtement, c'est une belle surprise selon moi. Je ne le voyais pas pantoute marqué comme ça. Logan Cooley avec l'Arizona, mais du temps de jeu, ça l'aide aussi. Mais il va falloir que Connor Bedard fasse pas juste des points, mais qu'il soit une personne importante sur la patinoire. Mais présentement, je pense pas que c'est le cas. Oui, il apporte un peu plus à l'équipe, mais il n'est pas capable non plus de traîner l'équipe un petit peu sur ses épaules. Puis je ne demande pas d'être traîné fort, mais au moins d'avoir un peu plus d'un point par match. C'est ce qu'on pensait avoir avec lui, mais ça va être plus difficile que je le pensais. Et honnêtement, la raison est simple, c'est chaque cause des équipes qui sont en avant d'eux autres. Puis malheureusement, ça va être le même principe avec Logan Cooley. Il va falloir qu'il lui-même traîne son équipe un peu sur son épaule. Malgré que Arizona a des meilleurs joueurs là, avec.
Arizona sont en
avant pas mal. Donc, tu sais, mais vraiment, ce qui va lui faire mal cette année, ça va être ça. Puis la recrue de l'année, son Eden, c'est parce qu'il va avoir eu pas loin d'un point par match, puis que Chicago va avoir eu quand même une vingtaine de victoires cette année-là.
Ben écoute, du côté de Benner, je veux dire, il a perdu le joueur avec qui il y avait le plus de chimie en Taylor Hall. Je pense pas qu'il revenait encore Taylor Hall. Donc, juste là, ça fait mal un peu. Mais tu sais, il fallait s'en attendre. C'est comme je te disais, oui, les Blackhawks ont vidé le club pour avoir Benner, mais c'est pas Benner à lui seul qui va faire remonter cette équipe-là. Tu sais, ceux qui voyaient qu'il allait faire 90-100 points, là, wow, minute, là, je veux dire, il est tout seul dans ce club-là. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Tu sais, quand tu as bien respect à Nick Foligno, qui est un joueur d'équipe qui capable de défendre ses coéquipiers quand c'est le temps, mais il n'y a pas d'affaire, c'est un premier trio. C'est pas un joueur. Il a déjà été un joueur de premier trio jadis avec les Blue Jackets, mais là, il n'est plus là. Donc, du côté de Chicago, ben, c'est ça, il manque d'attaque, puis Bedard, ben, il ne peut pas faire de miracle non plus à ce point-là, à 18 ans seulement dans la NHL. Là.
Exactement. Puis ça va être difficile, mais honnêtement, c'est bon de le voir. Puis honnêtement, c'est bon de voir que même les autres joueurs, les autres organisations vont bien. C'est le fun.
Bon, es-tu prêt pour la grosse question qui va faire peut-être le plus réfléchir parmi les quatre?
Vas-y, fort.
Écoute, dans le passé, on a eu les Carey Price, on a eu les Henrik Lundqvist, on a eu, on peut ajouter Fleury dans le temps. Récemment, on a eu les Vasilevski, les Shesterkin. Si tu avais à construire ton équipe autour d'un gardien présentement, ça serait qui ton choix?
Ben, tu sais, j'ai pas le choix d'aller avec un joueur, un gardien de but comme on le marque présentement. Là. Je pense que c'est pas mal l'avenir. Joseph Wall va quand même bien faire. Oettinger, ça pourrait être un autre joueur. Moi, je pense que si j'avais un gardien de but présentement à chercher, c'est Oettinger ou ça serait probablement un marque.
Moi, mon choix, ça serait Sorokin du côté des Islanders. Il est tellement sous-estimé. Encore ce soir, là, il freine l'attaque de tes Red Wings. C'est 2-0 présentement, les Islanders. 29 shots qu'il a reçus.
Totalement d'accord.
C'est dommage qu'il soit avec les Islanders, ce gardien-là. Ouais. Parce que si tu le mettais avec une équipe comme Vegas ou peu importe, là, ça serait probablement des Vezina après Vezina. Là.
Ouais, mais si on est-tu prêt à encore donner un gros contrat à un gars comme ça? Puis t'as raison, puis on pense jamais à Sorokin, c'est vraiment malheur parce que c'est vrai que c'est un des gars qui est. Puis en plus, c'est un gars qui fait beaucoup de blanchissage. Hein. On l'oublie souvent quand même, mais c'est un gars qui est très bon pour faire des blanchissages. On va dire que c'est le système de jeu de. C'est un jeu d'Enders qui font ça, mais il faut quand même qu'il efface les maudits jeux blancs. Là. Donc t'as raison. Puis c'est un gars qui est quand même pas super vieux, 28 ans. C'est un choix de troisième round aussi. T'as raison. Écoute, c'est un gars qui a joué en haut de 900 toute sa carrière. Hein. C'est pas compliqué. Il a jamais été en bas de 900, même en bas de 915. Ça, c'est cette année 915. Fait que, ouais, non, je te comprends. C'est un bon pick.
Ben écoute, Steph, c'est ce qui met fin au podcast de ce soir. Ne manquez pas du côté de la source LNH demain. C'est l'attaquant Alexandre Goulet là, de l'assurance Ted Firmings qui va être là. Ancien joueur de la LHJMQ. Donc, si vous voulez voir un petit peu, avoir ces anecdotes et tout ça, eh bien, rendez-vous sur la page de la source LNH pour voir le podcast. Sinon, de notre côté, évidemment, on vous gosse encore avec ça, mais si vous écoutez notre podcast, en fait, là, sur les plateformes Spotify ou Apple Podcast, laissez un petit review positif là, pour nous aider à gravir les échelons des podcasts au niveau du hockey.
Yes, sir.
Et sinon, s'il y a des gens de votre entourage qui vous demandent des recommandations pour les podcasts, eh bien, pensez à nous. Ça va nous faire beaucoup de bien. Et sinon, ben, la semaine prochaine, on va revenir à la plage horaire du dimanche. Là. Je pense pas que je vais choquer cette fois-ci dimanche prochain. J'ai pas d'obligation, rien. Donc, on devrait être de retour dimanche prochain à 20h30. Encore une fois, un gros merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, qui ont commenté. Merci à tous ceux qui vont regarder le podcast également ou l'écouter en différé. Et nous, Stéphane, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du podcast de Hockey sur demande.
Yes, sir. Salut tout le monde. Bonne semaine.
Salut tout le monde.
Bon, hockey.